Bonsoir. Le vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a conduit la semaine dernière une importante délégation gouvernementale en Afrique du Sud et en Zambie pour conclure des accords avec des acteurs majeurs dans la filière de production du maïs dans ces deux pays. Le déplacement de la délégation de la RDC fait suite à la pénurie de maïs observée dans plusieurs provinces de la RDC, principalement dans le Grand Katanga et le Grand Kasai. À Lubumbashi, par exemple, le sac de 25 kg de maïs coûte 100 000 francs congolais contre 25 000 francs congolais il y a quelques mois seulement. Le 21 avril dernier, lors de la réunion du Conseil des ministres, Vital Kamerhe a attribué la hausse du prix des maïs, notamment à la faible production locale de ce produit agricole. Il estime que la diversité dans la production est le secret pour résoudre le problème non seulement du Katanga, mais pour l'ensemble du pays. Que faut-il pour accroître la production locale et réduire les importations des produits de première nécessité? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 10 mai 2023. Participe au débat Clément Kandou Kasongo. Il est directeur du service national des semences au ministère de l'Agriculture. Monsieur Kandou Kasongo, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Jean-Ban Manissa Saïdi, acteur politique, il est ancien gouverneur de l'ex-province orientale et de la province de l'Ituri. Il est membre de la Fédération des entreprises du Congo, fait qu'en sigle. Monsieur Bamanissa, bonsoir.
Oui, madame, bonsoir.
Et Michel Bissa, professeur à l'Université de Kinshasa. Il est secrétaire scientifique de l'Observatoire de la gouvernance. C'est un laboratoire de recherche en sciences sociales. Monsieur Bissa, bonsoir.
Bonsoir, madame.
À Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, vous nous suivez sur la 95.8. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net ou encore sur Canal+, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Je l'ai dit dans mon introduction, une délégation constituée de plusieurs membres du gouvernement en provenance de l'Afrique australe a séjourné la semaine dernière à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Cette délégation est allée chercher les voies et moyens pour approvisionner notamment le Haut-Katanga en farine de maïs qui est l'aliment des bases. On écoute à ce propos le vice-premier ministre et ministre de l'économie Vital Kamerhe au micro de nos confrères de la presse du gouvernorat du Haut-Katanga.
La mission la plus importante, c'est celle qui va se passer ici au Katanga. À l'étranger, nous sommes allés seulement chercher une solution de dépannage pour fournir de la farine au Katanga, mais aussi des semences et des fertilisants. Parce que nous estimons que la diversité dans la production, la diversification de la production, est le secret pour résoudre le problème, non seulement du Katanga, mais de l'ensemble du pays. La Zambie n'a pas beaucoup de terres plus que le Katanga. Mais c'est un paradoxe que nous allions chercher de farine en Zambie. Donc nous allons étudier les causes qui font que les producteurs du Katanga ne produisent pas autant qu'il faut. Ils ne sont pas de mauvaise foi. Nous pensons que du côté de l'État, nous avons aussi des efforts à faire, des mesures d'allègement, par exemple. Mais la mission s'est bien passée de l'autre côté. Mais la mission la plus importante, c'est ici où nous allons parler avec les Katangais, les Congolais, pour résoudre nos problèmes congolais.
Clément Kandou Kasongo, directeur du service national des semences au ministère de l'Agriculture. Une pénurie de maïs est observée dans plusieurs provinces de la RDC, principalement dans le Grand Katanga et le Grand Kasai. Le 21 avril dernier, lors de la réunion du Conseil des ministres, le vice-premier ministre en charge de l'économie a attribué la hausse du prix des maïs, notamment à la faible production locale de ce produit agricole. Qu'est-ce qui peut expliquer cette faible production?
Oui, madame, merci beaucoup. Moi, j'aimerais aborder ce problème sur le plan technique et scientifique. Vous dites que au Conseil des ministres, il a été dit que la production est faible. Si la production est faible, c'est puisque nous recourons à des variétés de maïs qui ne sont pas performantes. Essentiellement, dans notre pays, on recourt aux variétés que nous appelons variétés composites. Et ces variétés composites, lorsque vous voyez le rendement ne va pas au-delà de, en moyenne, au-delà de 2 tonnes par hectare. Lorsque vous avez un rendement moyen de 2 tonnes par hectare, vous ne pouvez pas espérer avoir une production telle que le les besoins en maïs pour l'ensemble du pays soient couverts. C'est pourquoi nous, nous proposons qu'il faut des variétés performantes à haut rendement. Des variétés performantes à haut rendement, c'est des variétés de maïs, des variétés hybrides. Mais les variétés hybrides, il faut y aller à petits pas. Puisque nous n'avons pas des hybrides essentiellement congolais à 100%. Les hybrides doivent aller, doivent provenir de l'extérieur.
Vous dites que la RDC recourt à des variétés de maïs qui ne sont pas performantes. Si vous savez que ces variétés ne sont pas performantes, pourquoi recourir à ça?
Eh bien, on recourt à ces variétés-là qui ne sont pas performantes, des variétés composites, comme nous disons, puisque nous n'avons pas des hybrides qui nous appartiennent à nous, des hybrides propres à nous. Prenez la province du Katanga, à un certain moment, le minier recourait aux hybrides et qui vous donnait des rendements de 7 à 8 tonnes par hectare. Maintenant, nous devons faire que nous utilisions des variétés hybrides. Pourquoi maintenant nous recourons aux variétés composites? C'est puisqu'on n'a pas encore les hybrides à nous. Vous savez, quand vous recourez aux hybrides, chaque saison, vous devez faire venir les semences d'hybrides de l'extérieur du pays. Chaque saison. Et ça, ça peut marcher pour les grandes entreprises minières, comme on a connu ça au Katanga. Mais pour les petits producteurs, dont la production, la somme de production fait qu'on peut avoir une grande production, il faut recourir aux petits producteurs qu'on doit former pour utiliser les hybrides. Mais pour le moment, puisque je vous ai dit qu'il faut y aller à petits pas, il faut doter l'INERA de moyens pour que l'INERA puisse mettre en place des variétés plus performantes qui peuvent faire par exemple 3,5 tonnes à 4 tonnes par hectare de maïs composite. Il faut mettre à la disposition du ministère de l'Agriculture de moyens pour que ce service attitré puisse encadrer le producteur de maïs, produire conformément aux normes. Et pour produire conformément aux normes, il faut que le ministère de l'Agriculture envoie sur le terrain ses encadreurs.
Pour le moment, le ministère de l'Agriculture n'a pas des moyens?
Le ministère de l'Agriculture, vous savez que jusqu'il n'y a pas longtemps, on avait au budget, là, on nous donnait 2% du budget pour pouvoir travailler, mais ces 2% n'étaient même pas donnés entièrement, on arrivait aux environs de 1%. Mais quand j'ai dit qu'il faut donner au ministère de l'Agriculture de moyens, le ministère de l'Agriculture ne va pas produire. On n'a pas pour vocation de produire. Nous faisons produire. Nous encadrons ceux qui produisent. Le ministre met à la disposition des ménages agricoles, des petits agriculteurs, des petits producteurs et même des grands producteurs. Il met à leur disposition des gens qui peuvent les encadrer, leur apprendre comment produire. C'est ça. Donc, le moyen à l'INERA, qui est en amont de la mise en place de nouvelles variétés, qui a en amont de la mise en place des semences de catégorie base, tout découle toutes les autres semences pour produire les produits de masse.
Mais comment vous expliquez qu'il y a quelques temps, on n'avait pas ce problème des pénuries de maïs, Monsieur Kandou Kasongo?
Bon, madame, je vais vous expliquer. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui au Katanga. Il y a un peu les hommes d'affaires qui font ce qu'ils font, vous le savez, on en parle, qui cachent les produits et ainsi de suite. Mais je peux vous dire que depuis un certain temps, sur le plan scientifique, il y a des attaques des champs par la chenille légionnaire. Ça s'ajoute. Il y a les changements climatiques. Il y a moyen de lutter contre les changements climatiques. Et comme je vous l'ai dit au départ, en mettant en place des variétés performantes, nous pouvons avoir des variétés résilientes qui résistent à la sécheresse et qui peuvent donner de bons rendements. Et pour cela, il y a un programme. Au niveau de la recherche scientifique avec l'INERA, il y a un programme. Au niveau de l'INERA.
Mais est-ce que cela se fait? Est-ce que ce programme est appliqué?
Oui, le programme est mis en place, appliqué avec l'aide des bailleurs de fonds. Mais les bailleurs de fonds ne peuvent pas les supporter à 100%. Les bailleurs de fonds donnent ce qu'ils peuvent, mais
le gouvernement ne peut pas financer ce programme.
Mais je vous dis que notre budget, c'était de 2% pour l'agriculture, par exemple. Cette fois-ci, on a dit 10%, mais il faudrait, quand vous aurez l'occasion, vous poserez la question à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Agriculture, depuis le début de l'année, combien on a libéré pour le ministère de l'Agriculture, pour qu'il puisse encadrer les producteurs. Posez la question, madame, s'il vous plaît. Et le ministre va vous répondre. Mais moi, je vous dis qu'il n'y a pas eu grand-chose. Donc, il faut, laissez-moi résumer, il faut donner des moyens pour qu'on mette en place des variétés performantes, des variétés à haut rendement, qui résistent à la sécheresse, des variétés qui résistent aux attaques des insectes. Ça, c'est un. De deux, il faudrait donner des moyens à la recherche, donner des moyens au ministère de l'Agriculture pour qu'on mette en place des hybrides à 100% congolais. Puisque les hybrides qu'on utilise maintenant dans certaines exploitations au Katanga, ça vient de l'extérieur. Et chaque saison, il faut que ces semences-là viennent de l'extérieur. Là, en définitive, ça pourra coûter cher. Mais comme on ne peut pas, du jour au lendemain, mettre en place des hybrides tout à fait congolais, on peut y aller en quittant lentement ce domaine de maïs composite, aller vers les hybrides. Pour le maïs composite, on ne retiendrait que les variétés qui sont performantes, qui peuvent donner 4 à 5 tonnes par hectare. Ok, on peut le faire. Pour ça, il faut des moyens. Donner des moyens à l'INERA, donner des moyens au ministère de l'Agriculture, par le biais de ses services spécialisés, qui vont aller encadrer les producteurs pour leur montrer comment produire, comment recourir à des variétés plus performantes, madame.
Donc tout se résume aux moyens financiers. Tant qu'il n'y a pas de moyens financiers, la population va continuer à constater la pénurie de maïs. Ce problème des pénuries va continuer à se poser.
Oui, pour le moment, ce que je vous dis là, c'est un programme qu'on a mis en place depuis longtemps sur papier, mais qui n'est pas appliqué. Mais pour le moment, ce qu'on peut faire, il y a moyen de ramasser les produits sur terrain. Vous savez qu'il y a des villages, il y a des coins où on trouve du maïs. Il y a du maïs dans les cases. Mais ce maïs, on ne peut pas l'amener, ces gens ne peuvent pas amener ça dans les grands centres de consommation puisqu'ils n'ont pas de moyens pour amener ces produits dans les grands centres de consommation. Maintenant, là, on ne peut pas parler...
Mais ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de moyens, mais il y a aussi un problème des routes. Ils ne savent pas comment acheminer la marchandise.
Exactement. Tout ça, ça fait partie de l'ensemble. Les moyens, c'est-à-dire qu'il faut avoir de bonnes infrastructures. Les moyens, c'est-à-dire qu'il faut avoir de l'argent pour mettre son produit sur un camion, amener ça dans le grand centre. S'il vous plaît, madame, allez dans le Kassai, allez dans le Kwilu, allez, je ne sais pas moi, dans n'importe quelle province. Mais vous allez voir des personnes, un monsieur avec sa femme, qui transporte sur le vélo 5, 6, 7 sacs de maïs. Et ils font 200, 250 kilomètres à pied pour aller vendre ça dans le grand centre, avoir un peu d'argent, acheter un peu d'habits pour les enfants et rentrer. Ça, c'est un problème. Donc, il y a des produits à la campagne. Il faut acheter ce produit-là. Il faut que le gouvernement trouve des voies de moyens pour ramasser ces produits qui sont à la campagne. Pour ce faire, on ne peut que s'adresser au ministère de l'Agriculture, qui a des inspecteurs de l'agriculture partout et ils peuvent vous donner l'état de stock. Et ils peuvent aider à évacuer ce produit si on leur donne les moyens, acheter auprès des villageois et amener ce produit dans les centres de consommation. Voilà, madame. N'oubliez pas.
On vous redonne. Merci, monsieur Kandou. On a tout le temps. On va vous redonner la parole pour compléter votre lecture des faits. Alors, Jean-Mamanissa Saïdi, vous êtes acteur politique et ancien gouverneur de l'ex-province orientale et de la province de l'Ituri. Vous êtes membre de la Fédération des entreprises du Congo. Quelle analyse vous faites de cette pénurie observée du maïs dans quelques provinces de la RDC, notamment le Grand Katanga et l'espace Kassai?
Oui, madame, je dois vous avouer que c'est pas avec plaisir que j'accepte de discuter de cette question parce que, 70 ans plus tard, après notre indépendance, on savait qu'il y avait toujours des problèmes d'alimentation au Kassai, au Katanga. Qu'est-ce qu'on a fait comme cartographie depuis toutes ces années pour savoir quelles sont les zones de production, quelles sont les capacités des populations à planter tel et tel produit, et qu'est-ce qu'on a mis comme programme lorsque on a de la production à tel endroit, comment on doit l'acheminer? Vous savez, le principe est qu'il ne faut pas acheminer trop loin les produits, il faut essayer de les consommer le plus près, surtout dans un pays qui manque des infrastructures comme chez nous. Et il est quand même dommage qu'on discute sur ces questions dans un pays béni par le sol et la pluie sur des questions d'alimentation. Aujourd'hui, on sait qu'il y a 27 millions de personnes qui sont sous-alimentées, c'est un quart de notre population. Et on doit reconnaître qu'il manque un programme agricole dans notre pays. On dépend de l'extérieur. On parle des hybrides qui doivent venir de l'extérieur. Pourtant, nous étions le pays le mieux organisé avec l'INERA. L'INERA est toujours là. Les ingénieurs agronomes sont toujours formés. Pourquoi est-ce qu'on ne réalise pas ce qui est accordé dans les accords de Maputo, c'est 10% normalement dans le budget. Je suis aussi l'initiateur de la loi agricole, madame, mais une loi qui m'a été volée à l'Assemblée nationale et qui m'a fait le dire dans ces termes, et où j'avais, en 2008, hein, où j'avais une approche plutôt qui était de promouvoir le paysanat, la production paysanne et la transformation de nos produits agricoles par les entreprises PME, PMI, au lieu de tout mélanger. Donc, je connais un peu la question et c'est vrai que j'ai dû m'en intéresser encore en tant que gouverneur. Je connais le problème du Katanga. J'ai travaillé sur le programme maïs Kasaï oriental en 86-87. Et cette dépendance de l'extérieur où on doit toujours attendre les bailleurs de fonds, je sais ce que ça a comme, comme méfait, où l'agriculture est devenue beaucoup plus administrative et bureaucratique que de production de terrain, où les fermes au Congo sont devenues beaucoup plus des fermes de villégiature que des fermes de production vraiment, et où on n'a pas vraiment des fermiers. Donc on n'a pas de programme alimentaire et on n'a pas de programme agricole.
Alors, M. Mamanissa, la RDC dispose de 80 millions d'hectares de terres arables, dont seulement 10% serrés, mis en valeur. Est-ce que cela signifie qu'on n'accorde pas beaucoup d'importance à l'agriculture en RDC?
Oui,
10%, c'est insignifiant quand même.
Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est un peu la conséquence de tout cela qui ne nous permet pas d'avoir une politique agricole et une politique alimentaire qui soit bien définie. La question de l'agriculture est une question qui doit être traitée par les provinces, les gouvernements provinciaux. Et il faut leur donner les moyens. Au lieu de faire des grands projets, lorsque j'étais à Kisangani, j'ai eu à contrer avoir vraiment des difficultés pour lancer nos parcs agro-industriels de l'Otokila, de Dingila, et je disais au gouvernement central qu'il valait mieux, au lieu de mettre l'argent à Bukangalonzo, qu'il valait mieux les distribuer aux provinces qui pouvaient faire des projets moyens et de la production. Donc aujourd'hui, oui, on a des terres, c'est pas le problème, on a des ingénieurs. Mais on manque de programmes, on manque de l'appui aux producteurs et on n'a pas un schéma clair comment est-ce qu'on doit tenir la filière de la production, du transport, du stockage, de la transformation, de la distribution sur le marché. Et tout cela fait que le système aujourd'hui est beaucoup plus dépendant des autres pays le long des frontières. Donc, que faut-il faire, madame?
Justement, qu'est-ce qu'il faut pour augmenter, par exemple, la production sur le plan agricole?
Mais oui, il faut arrêter d'aller voir chez les voisins et il faut travailler chez nous. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment, ça me plaît pas beaucoup de travail, de discuter sur cette question, mais je suis là pour essayer de faire passer ce que nous pensons. C'est que nous devons organiser notre agriculture chez nous. L'agriculture ne s'organise pas en dépendant des autres, sauf si on veut faire venir certains autres produits. Mais tout peut pousser chez nous, le blé peut pousser chez nous, on ne dépendra pas de l'Ukraine, etc. Donc, mettons en place un programme de production par zone. Il y a une cartographie qui existe. On sait que telle zone peut produire tel autre produit. Et relions ces zones de production aux grands centres de consommation. Le problème de l'INERA, oui, il faut donner, mais on doit avoir des gens qui vraiment vont travailler, vont faire les recherches. Cette histoire d'hybride, moi je me rappelle qu'on a relancé Bumba Opala avec le maïs, le riz dans les années 2002 après les guerres 2002. Moi j'étais contre les produits, les semences hybrides qui ont été déversées parce que c'est une dépendance. Et j'ai entendu monsieur, le directeur de service sémencier, vouloir faire toujours recours aux semences hybrides de l'extérieur. Mais mettons en place nos structures. Pour faire des semences, ce n'est pas magique. C'est très facile. On peut le faire dans toutes les zones ici de la République démocratique du Congo. Mais quelle est la politique du gouvernement en cette matière? C'est ce qui manque. C'est là où il y a un défaut. Et je vous dis qu'on n'a pas eu, on a eu beaucoup de ministres d'agriculture depuis 60, Regardez les autres pays stables en matière de production agricole, comme la Côte d'Ivoire et autres. Ce n'est pas des politiciens qui vont dans les ministères de l'agriculture, ce sont des vrais techniciens qui doivent implémenter une production et une sécurité. Merci. La nourriture, c'est très crucial.
Michel Bissa, professeur à l'Université de Kinshasa et secrétaire scientifique de l'Observatoire de la gouvernance, c'est un laboratoire de recherche en sciences sociales. Votre lecture, Michel Bissa, voilà, sur cette situation.
Merci beaucoup, madame. Souffrez que je commence par saluer M. Jean Bamanissa ainsi que l'autre co-débatteur. Je fais mienne toutes les observations tellement pratiques de M. Jean Bamanissa. Vous souffrez que j'intervienne en trois points. Premier point, madame, c'est d'abord une honte pour la République démocratique du Congo et pour nous tous collectivement de nous mettre là à traiter et à médiatiser une question d'une délégation officielle qui doit aller en Afrique du Sud et en Zambie pour chercher du maïs. Je voudrais vous dire que ces deux pays-là sont des pays désertiques aujourd'hui. Le désert de Kalahari progresse aussi bien en Afrique du Sud, Botswana, que vers la Zambie. Alors que nous, nous sommes encore dans la bonne question. C'est justement à ce genre de questions que la loi de la congolité devrait s'appliquer. Pourquoi aller à l'extérieur chercher du maïs que nous pouvons produire ici chez nous? Et là, malheureusement, ça n'a pas marché. Deuxième élément, il faudrait préciser que en allant en Afrique du Sud, ils ont dit que ce n'était pas que je pouvais chercher de la farine, mais aussi des semences et des fertilisants. Je ne sais pas si, madame, les gens comprennent ce que ça veut dire. Zambie, Afrique du Sud, parlons même du Burundi, qui est le pays où la nourriture coûte moins cher aujourd'hui. Les fertilisants sont aujourd'hui produits à l'aide des matières organiques. Rien que pour la ville de Kinshasa, avec autant de millions d'êtres humains, nous pouvons, à partir de nos forces sceptiques, produire des engrais biologiques de grande qualité et augmenter notre production. Donc là, il y a une véritable crise d'intelligence stratégique. Alors, est-ce que le Congo ne l'a pas fait? Non, madame. Dans nos universités, à la faculté de sciences sociales, à la faculté de sciences agronomiques de l'UNIKIN, de Kisangani, même à Lubumbashi, nous avons des collègues qui ont proposé des solutions à toutes ces questions. Aussi bien pour améliorer la production, pour produire les semences, pour transformer localement. Mais le problème réel est que nul n'est écouté dans ces pays. On gouverne la question de la souveraineté alimentaire et sécurité alimentaire comme on gouverne l'État de manière générale. Alors, madame, dernière précision que je voudrais apporter, c'est que le problème ne se résume pas en termes de maïs. Ce n'est pas que la pénurie du maïs. Les données montrent qu'en République démocratique du Congo, aujourd'hui, nous avons un problème de l'insécurité alimentaire. Et une recherche du PAM a révélé à peu près 26 millions d'âmes en République démocratique du Congo aujourd'hui qui ont des problèmes de sécurité alimentaire. Et ce problème de sécurité alimentaire va nous conduire, certains sont déjà presque en état de maladie et en majorité, il n'y a pas que le Katanga et le Kwilu. Et il n'y a pas que le Katanga et le Kasai, la province du Kwilu, où il n'y a pas la guerre. Les gens sont en train de mourir de faim aujourd'hui. Alors, comment y remédier et qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai suivi les collègues du ministère lorsqu'il a parlé. Il dit que la République démocratique du Congo produit des variétés faibles. Je me pose la question de savoir, lorsqu'il parle de la République, il veut parler des particuliers, des individus, ou est-ce qu'il veut parler d'un programme étatique, puisqu'ils sont au ministère de l'Agriculture. À ma connaissance, à part le service national que dirige le général Kasongo Kabwik, où on a vu quelques productions à Kanyamaka CC, la République démocratique du Congo n'a aujourd'hui ni politique agricole claire, ni politique alimentaire, et ces deux politiques agricoles et alimentaires devraient s'asseoir sur la politique de la population, qui elle-même n'existe pas.
En parlant du service national, professeur Michel Bissa, en parlant du service national, est-ce que si aujourd'hui le gouvernement décidait, par exemple, de mettre beaucoup plus de moyens dans ce service, cela pourrait aider à stopper ou à mettre fin à l'insécurité alimentaire dont vous avez parlé tout à l'heure?
Oui, madame, ça peut être une des options, mais le service national ne peut être qu'une pièce dans une mosaïque de plusieurs pièces qui doivent être définies d'abord par la politique alimentaire de la République. Nous n'avons pas aujourd'hui une politique alimentaire. Ensuite, ça devrait marcher dans la politique agricole qui ferait partie de cette politique alimentaire globale. Nous n'en avons pas. Mais pour résoudre ça, il fallait avoir aussi la politique de la population. Nous ne savons même pas combien nous sommes de Congolais parce que l'État n'est pas gouverné. C'est ça, en fait, ce véritable problème. Alors, madame, autre cause. Tenez aujourd'hui que nous avons ce qu'on appelle le phénomène d'accaparement des terres ou de fermalisation. Toutes les étendues proches de nos villes, et là, le gouverneur Bamani, ça peut nous contredire, les personnalités politiques de ces pays se sont accaparées de vastes étendues de terre qu'ils mettent en jachère. Ils appellent cela ferme, mais vous y entrez, il n'y a ni plantes, ni élevage. Regardez rien que la ville de Kinshasa. 79% de Kinshasa, c'est Maluku. Presque toutes ces vastes étendues sont des propriétés de politiques qui font l'agriculture de plaisir, l'agriculture des jeux. Ils ne sont pas là pour résoudre un problème alimentaire global. Donc, notre grand problème vient justement du fait que, un, le domaine de la recherche agricole, alimentaire n'est pas financé. Le budget de l'agriculture n'est à peine que de 1,8% du budget national. On manque la politique alimentaire et alors, à ce moment-là, le gouvernement. Mais aussi, madame, à qui appartient la compétence de nourrir la population? La politique alimentaire devrait être de la compétence des provinces selon la diversité naturelle et culturelle.
Merci, là professeur encore, Michel Bissat. On va vous redonner la parole. Je sens que vous avez beaucoup de choses à dire. Hein. On va laisser la place aussi aux auditeurs qui veulent s'exprimer, donner aussi leur point de vue par rapport au sujet de ce soir. On va se rendre à Mbujimayi dans la province du Kasaï Oriental pour écouter cet auditeur qui appelle. Ça sera pour vous, Monsieur Kandou Kasongo.
Moïse Malaon, depuis Mbujimayi au Kasaï Oriental, très préoccupé par la crise alimentaire et l'insécurité même que traverse la RDC et certaines provinces, la délégation gouvernementale qui s'est dirigée vers l'Afrique du Sud fait la honte de tout un pays qui a beaucoup de richesses et plusieurs terres.
Je crois qu'on a perdu l'auditeur de Mbujimayi, au fait, l'auditeur qui estime aussi que c'est une honte de voir des ministres congolais aller chercher le maïs à l'extérieur. Alors, Monsieur Kandou, vous avez suivi les analyses hein, des autres co-débatteurs dans cette émission, Monsieur Jean-Bamani Sassaïdi et Michel, le professeur Michel Bissat. Il n'y a pas de programme agricole en RDC. Est-ce que vous confirmez cela?
Je suis, d'abord, je voudrais vous dire que je suis très content. Et je salue le professeur qui est intervenu, qui a dit il faut, financer la recherche. Je le salue, puisque c'est ça la base de tout. Dire qu'il n'y a pas de programme, c'est faux. Il y a des programmes, il y a toujours eu des programmes, mais qui n'ont jamais été financés. Et ce sont les politiciens qui ne financent pas ça. Puisque les politiciens, quand ils sont en dehors du gouvernement, ils critiquent très bien. Mais quand ils viennent au gouvernement et qu'on vote le budget pour l'agriculture, ils font tout pour ne pas donner à l'agriculture ce qu'il faut. L'agriculture, ce n'est pas le ministère, c'est seulement le ministère de l'agriculture. C'est l'agriculture dans sa globalité. La recherche, le développement rural, la pêche et l'élevage et l'agriculture proprement dit. Donc, il faut des moyens. Les programmes, il y a toujours des programmes qui ne sont pas financés. Vous pouvez faire les meilleurs programmes du monde. Mais si ces programmes ne sont pas financés, vous n'irez pas loin. Et ça, ce sont les politiciens. Lorsqu'ils ne sont pas au pouvoir, ils parlent, ils disent qu'il n'y a pas de programme. Il y a des programmes, madame. Allez à l'INERA, pardon, à la recherche scientifique. Allez à l'INERA. Il y a un programme. Venons au ministère de l'Agriculture. Il y a des programmes. Nous avons été dernièrement aux États généraux de l'agriculture. On a épinglé tous les problèmes qui font que l'agriculture ne marche pas dans ce pays. Mais il y a beaucoup de politiciens qui sont en dehors, qui critiquent. Quand ils étaient au gouvernement, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il ne sortait rien pour développer l'agriculture. Alors, en ce qui concerne la structuration même du secteur agricole, la production doit se faire en province. Et la production doit se faire avec les privés. les ménages agricoles, les petits producteurs, encadrés par le gouvernement, qui met à leur disposition des encadreurs, des gens qui doivent apprendre à ces petits ménages agricoles comment produire. On parle de fermes qui sont abandonnées. Quand vous allez dans les périphéries de villes, vous voyez une ferme, là-dedans, c'est plutôt la villégiature, il y a de la bière et tout ça. Mais qui a ces fermes-là? Ce sont les politiciens qui étaient au gouvernement par le passé. Ce sont eux qui ont ces fermes. Donc, c'est à eux qu'ils se jettent la pierre, à eux, pas au ministère de l'Agriculture. Voilà donc, madame, je reviens, je vous résume la clé. La recherche, il faut la financer. L'encadrement, il faut financer. Si on fait ces deux-là, vous allez voir que les solutions seront trouvées. Revenons aux hybrides. Les hybrides, ce n'est pas spécifique pour un pays donné. Vous ne pouvez pas avoir une grande production quand vous n'avez pas de variété de haut rendement. Or, ce ne sont que les hybrides qui peuvent donner de haut rendement. 9, 10 tonnes à l'hectare. Donc, il faut améliorer la productivité des exploitations agricoles en mettant en place des variétés plus performantes. Les composites, vous n'aurez jamais 5 tonnes avec une variété composite. Jamais. Mais 6, 7, 8, 9, 10 avec des hybrides, oui. Quand je dis qu'il faut faire venir les hybrides de l'extérieur, c'est en attendant que nous mettions en place nos hybrides. C'est en attendant qu'on donne à l'INERA le moyen pour qu'ils mettent en place même des variétés composites en attendant les hybrides qui sont plus performants.
Merci.
Madame, si on ne fait pas ça, on n'arrivera pas au résultat. On est au pouvoir, on est bien. Quand on est en dehors, on critique. Ça, c'est pas bon.
Merci, monsieur Kandou.
Nous critiquons ce comportement-là. Nous sommes ingénieurs agronomes, nous critiquons ça.
Monsieur Jean Bamanissa, il y a Deka Lumanisha qui nous écrit depuis Kamina, qui dit ceci, c'est des dépenses inutiles, des frais d'émission, lorsque des membres du gouvernement doivent aller chercher le maïs à l'extérieur du pays. La solution positive au problème des pénuries, c'est mettre assez des moyens dans le service national. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, le service national, c'est un instrument de production, tout comme d'autres devraient exister aussi. Alors, je crois qu'on a passé, tous les trois intervenants, on a passé la situation qui gangrène justement le milieu et qui fait que l'agriculture aujourd'hui n'est pas du tout performante. Hein, il faut le reconnaître au niveau de différents gouvernements qui sont passés tant au niveau provincial, c'est vrai qu'au niveau national. Alors, je pense très rapidement peut-être donner deux, trois voies ici. Ce qui manque ici, c'est qu'on n'a pas de gestionnaire d'entreprise agro-pastorale, des entreprises agro-industrielles. On n'a pas. Je crois qu'il faut avoir vraiment des bonnes écoles dans ce sens parce que c'est vraiment des affaires qui sont juteuses, qui sont rentables, l'agriculture. Donc, il ne faut pas s'empêcher d'apprendre, de faire apprendre aux jeunes seulement comment planter, mais il faut leur apprendre aussi la filière entière de production, de transformation, de transport, de stockage, de vente, etc. Et qu'il faut les gouvernants, quel est leur travail? Parce que monsieur parlait du gouvernant, et je ne veux pas revenir sur peut-être ce qui l'a dérangé dans mon discours de tout à l'heure. Mais les gouvernants, nous devons ouvrir le chemin. Nous devons faciliter à ceux qui doivent avoir des terres, congolais. Et moi, n'oubliez pas, ma politique agricole était basée sur le paysanat et pas à courir derrière les entreprises industrielles, étrangères, etc., ce qui pourrait tuer le paysanat. N'oubliez pas aussi qu'on a une vieille histoire d'une agriculture qui n'a pas marché avec la zaïganisation, où on a tué tout ce qui était production. Je suis de l'intérieur du pays, je connais très bien comment l'agriculture a périculté dans notre pays. Donc le gouvernant doit donner des facilités. Les tracasseries, moi je me rappelle avoir trouvé par exemple les taxes qui étaient pratiquées sur chaque personne qui porte une botte de feuilles de manioc, mais ou qui paye les taxes dans telle province, telle autre, le maïs qui viendrait, par exemple, de Opala, de Kisangani, ou le riz, etc., va payer dans toutes les provinces. Il faut faire lever des choses comme ça. Il n'y a pas de taxe, normalement, sur l'importation de matériel agricole.
mais il faut faciliter dans les ports pour qu'il n'y ait pas trop de taxation sur les produits agricoles et permettre à ce que les opérateurs de ce milieu puissent aller vers le gouvernement qui doit leur donner des subventions et puis des banques aussi, parce qu'on ne peut pas aller dans une banque et travailler à 10-15%. 15% d'ailleurs, c'est la moyenne aujourd'hui. C'est pas possible. Il faut des banques à 2%, mais il faut pas non plus qu'on revienne à ce qu'on a connu avec la BCA de l'époque, Banque de Crédit Agricole, qui a donné de l'argent, mais vous savez, l'agriculture, c'est par cycle, hein, c'est par cycle de 3 mois. Mais je voudrais dire, en tout cas, à tous ceux qui, et ça, c'était mon travail en tant que gouvernant et pas ce que M. Kandou croit avoir retenu. Mon travail, c'était d'initier et de pousser les opérateurs à travailler. Et c'est ce que nous avons fait pour que nous puissions avoir une production normale dans nos zones. Donc,
merci, monsieur Bamanissa.
Pour que le privé puisse faire de la production et aller avec ses produits sur le marché.
Michel Bissat, professeur Bissat, on va prendre aussi pour vous très rapidement cette autre réaction qui nous vient de Kinshasa.
Junior Bompongo à partir de la ville province de Kinshasa. Afin de parvenir à l'autosuffisance alimentaire et au-delà des échanges et coopérations économiques que l'actuel gouvernement pense être une solution rapide à la problématique des céréales de maïs qui éclaboussent la province du Katanga, moi je pense que, d'une part, et on vit aussi d'accroître la production locale et réduire l'importation des produits de première nécessité en RDC d'autre part, je pense que nous devons faire ce qui suit. 1. Investir dans l'agriculture. 2. Développer les infrastructures, c'est-à-dire le gouvernement doit avoir une politique qui tend vers l'amélioration des routes, les ports et les aéroports pour faciliter les transports des produits locaux et réduire les coûts des transports. 3. Encourager l'entrepreneuriat local, c'est-à-dire donner goût aux entrepreneurs locaux à investir dans la production des biens de première nécessité. 4. Favoriser la formation et le développement des compétences.
Professeur Michel Bissat, commentaire, petit commentaire, brève réaction par rapport à ce que propose Junior Bompongo pour parvenir à l'autosuffisance alimentaire.
Oui, madame, je suis totalement d'accord avec les points évoqués par l'intervenant. Il a raison. Malheureusement, les pays, ce n'est pas la priorité de l'État au niveau de la production, au niveau du budget. Et pour le secteur privé, nous n'avons pas une banque d'investissement au pays. Donc, quand on vous donne un petit crédit à remettre dans 3 jours, ça ne va pas. Mais c'est quand même, je l'ai dit, une honte majeure que le maïs qui ne demande que 3 mois. Dans 3 mois, on peut produire, donc, dans une année, nous pouvons avoir 4 récoltes dans notre pays au regard du climat. Aller chercher des maïs à l'extérieur, c'est un problème. On a évoqué aussi, madame, la question des filières connexes par rapport aux chenilles saisonnières. La faculté des sciences pharmaceutiques de l'INIKIN a produit, par le professeur Mvanga, un produit qui résout ces problèmes. L'État n'est pas là pour les regarder. Mais il y a aussi un problème de l'accès difficile aux infrastructures, des dessertes agricoles, faire partir les produits de gauche à droite, tout est délabré au niveau du pays. Mais madame, je voudrais dire ceci pour notre intervenant, c'est que s'il faut une solution durable, il faut produire et transformer localement, selon notre diversité naturelle et culturelle, parce que la sécurité alimentaire est une question de souveraineté étatique. Et nous serons un pays réellement libre le jour où on apprendra à produire localement ce que nous consommons, à transformer localement notre production et à consommer ce que nous avons produit.
Cette idéologie-là, réduire les importations des produits de première nécessité.
Justement, ça va réduire et alors, c'est là que je l'ai dit au début, la congolité devrait se vérifier. Au lieu de dire, nous voulons des Congolais de père et de mère, disons, nous voulons les maïs de père et de mère. Nous voulons les maïs produits chez nous. Et ça, c'est la responsabilité de l'État pour financer la recherche, la production, la transformation, l'évacuation, mais aussi la consommation locale. ceux qui nous gouvernent en 5 ans auraient pu faire de ce pays la première puissance alimentaire mondiale.
Merci.
Le climat nous le permet, la terre nous le permet. Malheureusement, madame, pour peut-être citer, nous créons plus les ONG, des partis politiques et des églises. Au lieu de créer des mini-entreprises agroalimentaires, au lieu que tous ces députés provinciaux, ces gouvernements provinciaux se mettent à produire, dans 3 mois, on peut faire d'une province la première richesse du monde. Je vous remercie, madame.
Merci, professeur Michel Bissa, pour votre conclusion. Jean Bamanissa, vous allez aussi conclure très brièvement, en résumé. Alors, quelles sont les conditions qui favorisent le développement de l'agriculture?
Très bien, je pourrais d'abord féliciter l'intervenant Julien Pongo qui l'a très bien résumé. Il pourrait le répéter tous les matins sur votre chaîne de radio, ce sera peut-être bien compris par beaucoup de personnes qui en ont les responsabilités. Je voudrais rappeler justement que les cycles agricoles sont très porteurs, 3 à 6 mois, haricots, maïs et tous les autres produits, c'est très rentable. Il faut accéder aux subventions et aux financements à des taux de 0,5, 1%, peut-être 2% pour faciliter justement la mécanisation. Et puis, on voudrait, quand on parle même de l'engrais, madame, on peut faire l'engrais chez nous. Il faut minéraliser le sol. On a fait beaucoup de tours dans le ministère pour expliquer cela, mais on ne voit pas l'intérêt. Et puis, bientôt décembre, se pointe. Il ne faut pas qu'on voit encore des visites dans des chambres froides pour savoir si on a assez à manger, etc. Il faut faire jouer aussi l'intelligence économique. Kinshasa, comment est-ce que Kinshasa est nourri? Est-ce qu'on a déjà pensé à ça? La zone économique spéciale de Maluku était à sa création, et j'ai beaucoup participé à ça, une zone agro-industrielle de transformation. Aujourd'hui, on a l'Angola avec des produits qui sont beaucoup moins chers, le Congo-Brazzaville. Attention à la déperdition de capacité de nos agriculteurs dans la zone autour de Kinshasa, qui risque de nous rendre toujours très dépendants. Et trouvons des solutions sur du long terme et des solutions intelligentes pour assurer l'alimentation à nos populations. Parce que si nous connaissons à Kinshasa le même problème que aujourd'hui le Katanga, vous imaginez Merci. Quelles seraient les conséquences.
Merci Jean Bamanissa. Clément Kandou Kasongo, que faire pour que la RDC ne reste pas dépendante de l'extérieur?
Oui, madame,
ça sera votre conclusion. Hein? Essayez de vous résumer.
Oui, ma conclusion est la suivante. D'abord, je remercie le correspondant de Kinshasa qui a très bien parlé et qui a soulevé les contraintes de tout ça. À cela, il faut qu'il ajoute qu'il faut financer la recherche pour mettre en place des variétés plus performantes. Il faut financer le ministère de l'Agriculture pour qu'il mette à la disposition des producteurs, des encadreurs qui vont aider les petits ménages agricoles, les plus producteurs, à produire conformément à la règle de l'art. Et puis, il faut faire en sorte que toute la chaîne de valeur soit respectée, comme quelqu'un l'a souligné tout à l'heure. Mais pour moi, la base, c'est la mise à la disposition de l'agriculteur, puisque nous parlons du maïs, des variétés plus performantes. On peut arranger les routes, on peut, mais quand vous n'avez pas de variétés performantes, vous n'aurez pas de bon rendement. Et quand vous n'avez pas de bon rendement, vous n'aurez pas une bonne production.
Merci.
Voilà ce que moi je dis là-bas.
Merci Clément Kiandou. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté qui l'a réalisé. La mise en onde était assurée par Dieudonné Nyangassa. Présentation et coordination, Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.